Religion du monde. Geneviève Delrue.
Rompre son jeûne à la maison, en comité restreint, sans se rassembler avec la grande famille, ce n'est pas ce que nous aurions voulu, bien sûr, mais c'est le destin qu'Allah a écrit pour nous. Respectons donc le confinement et restons à la maison.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le mois du Ramadan a donc commencé, un Ramadan 2020 bien singulier. Comme vient de le rappeler l'imam Abdel Mounaïm Boussena de Roubaix sur sa page Facebook, suivie par près de 500 000 internautes. En raison des mesures de confinement, pas iftar donc le soir entre amis, avec les voisins ou la famille élargie. Alors, Ramadan confiné, Ramadan confisqué? C'est la question qu'a posée Religion du Monde en ce début d'émission à Mohamed Moussaoui, président du CFCM, le Conseil français du culte musulman.
Je ne dirais pas tout à fait confisqué. Je pense que la raison pour laquelle les lieux de culte sont fermés est connue. Je pense que la préservation de nos santé à nous et d'autrui est primordiale et passe devant tout acte rituel, quel qu'il soit. Cependant, je pense que l'esprit du Ramadan, ce repas de partager avec une présence physique en rassemblement, il va se transformer simplement en un partage par le biais de distribution de repas à des personnes qui ont plus besoin, et puis de se recentrer sur autre chose, peut-être au niveau de nos foyers, de nos familles.
C'est-à-dire, vous pensez à quoi, cette autre chose?
Je pense que les repas familiaux aussi, ils ont leur importance. Les partager par le biais d'images, peut-être, parce qu'on n'aura pas la possibilité de se rencontrer physiquement, que chacune des familles, avec les moyens de communication aujourd'hui, on pourrait partager la table, tout en étant sur deux tables différentes, à des distances peut-être différentes, mais les images rapprochent bien les êtres. Et surtout de penser à ce que ce mois-là de Ramadan se passe le mieux possible pour toutes les familles.
Il y aura des solutions alternatives, par exemple au manque d'imams, ce qu'on appelle les imams psalmodieurs, qui psalmodient la prière du soir. Quelles seront ces solutions alternatives?
Le mois de Ramadan, il a cette spécificité effectivement d'une prière la nuit où les psalmodieurs qui connaissent le Coran par cœur récitent la totalité du Coran en fait, tout au long du mois. Cette possibilité n'aura pas lieu, mais les fidèles peuvent toujours faire cette prière chez eux avec leurs enfants, avec leur famille, tout en gardant les règles nécessaires du confinement.
Dans un de vos communiqués, vous avez effectivement très nettement dit que ce Covid-19 avait mis en évidence un manque d'imams, notamment un manque d'imams français, puisque généralement il y a effectivement des imams qui viennent pour la période du Ramadan d'Algérie, du Maroc, de Turquie. Cette année, ça n'est pas le cas. Très clairement, d'ailleurs, c'est quasiment comme pour les médicaments, il faudrait une autosuffisance. Mohamed Moussaoui.
Oui, tout à fait. Je pense que cette pandémie nous a montré nos insuffisances sur beaucoup de domaines. Sur celui des imams est très clairement net, puisque à peu près 300 imams qui arrivent chaque année ici en France pour épauler les imams en exercice, notamment sur cette prière de nuit avec la psalmodie du Coran, n'aura pas lieu. Je pense qu'il est indispensable pour les musulmans de France de penser à l'avenir et de former suffisamment d'imams. Nous en avons, je dirais, les potentialités. Il faut simplement qu'on s'y mette au travail pour permettre à ce que cette situation évolue dans les années à venir.
Comme les autres religions, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a mis à disposition des fidèles un numéro pour que ceux qui se trouvent en difficulté, là on pense au deuil, aux familles endeuillées, aux familles aussi où il y a des malades, de grands malades, un numéro pour les écouter. Ce numéro c'est le 01 45 23 81 39. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'appels?
Exactement, il y a eu plusieurs appels. Je pense que les aumôniers mobilisés ont fait un extraordinaire travail auprès des familles, auprès des malades, mais aussi de leurs familles, des familles endeuillées. Nous avons pu trouver des solutions pour de nombreuses familles endeuillées, pour les orienter vers les pompes funèbres, vers les aumôniers, pour les soutenir, pour leur trouver des solutions au niveau des carrés de confessionnels, au niveau des cimetières municipaux. Effectivement, cette plateforme était d'une très grande utilité, ce qui nous a fait penser à l'étendre également pour les détenus qui se trouvent aujourd'hui, malheureusement, le confinement exige, privés de toute rencontre avec les aumôniers en exercice. Donc nous souhaitons, en tout cas nous avons fait la demande aux autorités compétentes pour qu'une plateforme analogue soit mise à la disposition des détenus, tout en respectant bien sûr les spécificités de ces maisons d'arrêt.
Vous aviez exprimé au président de la République vos inquiétudes quant au manque de places dans les carrés musulmans, puisqu'il y a des familles qui ne peuvent plus maintenant envoyer le corps de leurs défunts dans le pays natal. Et ça en est où maintenant, ces carrés musulmans? Vous avez eu de bonnes nouvelles ou au contraire, est-ce que ça piétine?
Effectivement, nos inquiétudes se sont confirmées au fur et à mesure que le temps passait. La demande a été faite au président de la République vers le 23 mars de vive voix. Il a été fait le 20 mars par courrier. Et là, effectivement, aujourd'hui, nous nous retrouvons devant des situations très difficiles où des familles sont obligées d'attendre plusieurs jours pour trouver une place dans un cimetière. Nous savons que plusieurs communes ne disposent pas de lieux de sépulture regroupés, ce qui pose problème pour les familles. Et donc, ils sont obligés de trouver des solutions alternatives auprès des communes voisines. C'est pas toujours évident puisque le maire, il a le pouvoir exclusif de décider d'inhumer une personne qui n'est pas son administré.
Concernant justement ces deuils, vous avez parlé récemment de martyrs pour les malades qui sont morts du Covid-19. Alors, ce qui a entraîné toute une polémique avec l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, vous avez bien reprécisé après qu'il ne s'agissait en aucun cas, bien sûr, d'associer le mot martyr à celui de kamikaze, employé par des extrémistes musulmans. Est-ce que ce mot n'était pas, malgré tout, ne prêtait pas à confusion? Est-ce qu'il n'était pas inapproprié, en quelque sorte, même s'il a une racine grecque, comme vous le rappelez, et effectivement, martyr, ça veut dire témoin, et d'ailleurs, dans d'autres religions, et là, je pense au christianisme, à Mohamed Moussaoui.
Je ne pense pas qu'il ait prêté à confusion. Certes, c'est un terme, comme je le disais, c'est une traduction d'un mot arabe, shahid, qui veut dire témoin, mais là, je dirais, la polémique soulevée par le magazine dont vous faites référence est une polémique vaine, puisque je pense que la terminologie de témoin dans la tradition musulmane était bien précise. Et je voulais simplement faire une analogie avec les combattants qui tombent sur le champ de bataille, les morts pour le pays, pour la nation, pour d'autres raisons. Ceux qui sont morts dans une cause juste et noble, ceux-là, la toilette mortuaire ne se fait pas pour eux. Et il ne faut pas oublier que le prophète de l'islam les a élevés au même rang en termes de la qualité.
Ah oui,
pas le même statut, mais ils ont la même qualité.
Pardon, excusez-moi, oui, c'est par rapport à la toilette mortuaire, c'est cela?
Tout à fait, c'est pour ça, en fait, je voulais quelque part lancer un message de réconfort aux familles en disant que ce n'est pas une situation qui est singulière dans la tradition musulmane. Ceux qui tombent sur le champ de bataille, ce qu'on appelle donc les martyrs de guerre, aucune toilette mortuaire n'est faite pour eux. C'est même interdit de faire une toilette mortuaire pour eux. Donc, c'est dire que ce n'est pas une situation exclusive pour ceux qui sont morts en raison de Covid, d'autant plus que le prophète avait effectivement dit qu'ils sont élevés au rang de martyrs comme ceux qui sont noyés ou ceux qui ont perdu la vie dans un incendie ou dans un tremblement de terre, etc.
Ça veut dire que vous vouliez rassurer les familles qui étaient très malheureuses que leurs défunts ne puissent pas avoir de toilette mortuaire, c'est bien cela?
Tout à fait, ce n'est pas une situation singulière, elle a été faite aussi pour d'autres personnes par la tradition musulmane elle-même.
Mohamed Moussaoui, président du CFCM, qui a participé mardi dernier avec les autres responsables des cultes, des loges maçonniques et des associations laïques, à une audioconférence avec le président Emmanuel Macron, rencontre virtuelle sur le Covid-19. Avec nous en ligne, Mourad Latrèche, cofondateur de Saphir News et Salam News, deux médias d'actualité sur le fait musulman en France. Bonjour Mourad Latrèche.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez dû changer vos couvertures, changer vos contenus avec le Covid-19, notamment là je pense au trimestriel Salam News.
Oui, effectivement, comme tout le monde, comme tous les Français, nous avons été touchés. Mes équipes ont dû travailler pour justement pouvoir offrir un contenu adapté à la situation et surtout à la demande de nos lecteurs qui justement avaient besoin de clarté sur ce qui se passait et sur l'impact que ça pouvait avoir sur eux.
Et on trouvera quel contenu justement dans ce spécial Covid-19 ?
Alors on trouvera un certain nombre de contenus, que ce soit au niveau pratico-pratique, par rapport aux consignes de sécurité qui impacteront les musulmans, mais aussi à titre personnel sur le plan psychologique par exemple. Donc on a des conseils de psychologues et qui vont justement pouvoir les aider à affronter ce confinement en plein mois de Ramadan.
On parle de frustration.
Oui, effectivement, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que les musulmans de France sont très résilients, c'est-à-dire qu'ils acceptent la situation, mais il y a une frustration parce que le ramadan, on l'attend depuis des mois, et puis effectivement, il y a cette incapacité de le vivre pleinement comme ils ont l'habitude de le faire.
Donc parler d'un ramadan confisqué, pour vous, ça n'est pas un terme trop fort ?
Non, pas du tout. C'est vrai que c'est très adapté à la situation. Donc il y a cette impression-là, mais en même temps, il y a cette résilience qui fait que on accepte. Et justement, parmi le conseil que la psychologue nous donne sur Salam News, c'est de pouvoir accepter cette situation en disant que c'est pas une perte de temps, c'est l'occasion justement de se recentrer sur soi, de se poser, de faire le point sur sa vie, etc. Donc c'est presque une occasion inespérée.
Alors, des imams sont actuellement en formation. Grâce à OSES, qui généralement donne des cours de langue, hein, c'est ça, aux imams. Et là, ils sont en formation à l'internet, finalement.
Tout à fait. Ils se sont rendus compte que malheureusement, beaucoup d'imams ne sont pas formés à ces outils technologiques et n'ont pas l'habitude d'intervenir sur les réseaux sociaux. Donc cette association, exceptionnellement, elle a modifié un petit peu son agenda et ses activités pour justement pouvoir accompagner certains imams à prendre la parole sur les réseaux sociaux.
Alors Mourad Latrèche, quelles conséquences, j'allais dire, pour la communauté, aura le confinement ? Là, je pense par exemple à la zakat, hein, qui est donc l'aumône obligatoire pendant le temps du ramadan. Là, comment va-t-elle être récoltée ?
Ça va être la grande difficulté. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Il y a des initiatives qui sont prises ici et là, notamment de pouvoir rassembler cette zakat, en fait, qui est un don de purification qui est donné vers la fin du mois de ramadan.
7 euros par personne, c'est ça ? 7 euros par personne.
7 euros, effectivement, par personne en âge de jeûner, justement. Hein. Donc, c'est ce qui va clore un peu cette démarche spirituelle, hein, c'est de donner cette zakat. Et donc, effectivement, la difficulté pour les mosquées, c'est de pouvoir réunir cet argent, sachant que les mosquées sont fermées au public. Donc, certains se structurent en rassemblant cette somme autour d'eux, dans leur cercle familial, amical, voisinage, et pouvoir faire un virement, par exemple, à la mosquée. Mais c'est la difficulté. Toutes les mosquées n'ont pas une organisation, n'ont pas un contact direct avec leurs fidèles. Donc, c'est un peu compliqué comme situation.
Je vous remercie, Mourad Latrèche. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de Saphir News et de Salam News. Merci et bon ramadan.
Merci.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Certains ont avancé l'argument selon lequel le jeûne du mois de ramadan allait être reporté, voire annulé, parce que le jeûne favoriserait le développement du virus. Ils n'utilisent pas le conditionnel, je l'utilise moi-même, mais eux disent le jeûne favorise le développement du virus. Lorsque vous recevez ce genre d'informations, chers amis, la première des choses à faire, urgemment, c'est de s'abstenir de partager. Je vous rappelle au passage le schéma assez simple à suivre dans ce cas qui apparaît à l'écran.
Sur les réseaux sociaux, des imams comme Abdel Monaïm Boussena sur sa page Facebook donnent des recommandations à leurs fidèles, de même que l'on peut suivre des prêches en ligne. Comme on a pu le constater chez les chrétiens et les juifs pendant la période de Pâques, des solutions alternatives à la fermeture des églises et des synagogues ont été trouvées. En revanche, dans le monde musulman, question de génération pour des imams, comme on l'a entendu avec Mourad Latrèche, de culture et de moyens aussi, eh bien l'utilisation d'Internet pour ce ramadan confiné est pour le moment plus faible. C'est ce que constate Sinatou Saka, spécialiste des réseaux sociaux à RFI. Bonjour Sinatou.
Bonjour Geneviève.
Alors, effectivement, une moins grande utilisation, mais ça va peut-être bouger.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'expliquais dans notre conversation précédente. En fait, c'est une situation inédite, celle que l'on vit aujourd'hui. Et donc, peut-être que certaines actions vont se développer un peu plus tard sur le numérique. L'autre chose qu'il faut souligner, et là, pour le coup, je parle d'un contexte africain, c'est que les imams utilisent beaucoup plus la messagerie WhatsApp pour diffuser des prêches en ligne que Facebook ou Twitter, par exemple, qui demanderaient beaucoup plus de moyens, en fait. Donc, il y a pas mal d'imams qui envoient à leurs fidèles un résumé de leur prêche via la messagerie WhatsApp. Ça, c'est très, très utilisé et je pense que ça va encore se développer dans les semaines à venir. Par contre, il faut aussi ajouter qu'il y a pas mal de musulmans et de musulmanes qui ont un usage réduit des réseaux sociaux en ce moment pour justement se préparer pour le ramadan. C'est une sorte de détox numérique. Ils prennent l'habitude de quitter les réseaux sociaux pour revenir un peu plus frais, un peu plus régénéré en quelque sorte après le ramadan.
On peut parler, Sinatou, plutôt de jeûne numérique.
C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a pas mal d'influenceurs, comme on dit sur les réseaux, et d'influenceuses, des femmes souvent portant le hijab, qui donnent des conseils et qui préviennent leurs abonnés en disant « Dans quelques jours, je vais prendre un peu de recul sur les réseaux sociaux afin de mieux revenir plus tard. »
Alors, pour vous, il y a il y a plusieurs zones qu'il faut distinguer, la zone du Maghreb, le Sénégal aussi qui est un cas à part et puis les autres pays d'Afrique de l'Ouest.
Tout à fait. Je considère qu'en fait, l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, etc., sont des pays un peu particuliers parce qu'ils ont un accès à Internet tout simplement beaucoup plus facile. Et donc, du coup, ils ont aussi des moyens de développer plus de choses sur le numérique. Le Sénégal est un cas très intéressant parce qu'effectivement, c'est un pays où il y a énormément de musulmans et où il y a pas mal d'initiatives aussi sur le numérique, mais la plupart de ces initiatives sont en Wolof, ce qui empêche les autres musulmans, en tout cas ceux qui sont dans les autres pays, de pouvoir comprendre les prêches, de pouvoir comprendre toutes ces initiatives-là et d'y avoir accès. Après, dans un dernier temps, on a tous les autres pays, Bénin, Mali, Togo, où il y a également des musulmans, mais en très faible quantité qu'au Sénégal ou qu'en Afrique du Nord, par exemple.
Alors, dernière question, Sinatou, concernant les ateliers, les groupes de réflexion sur cette période du Ramadan, sur le Coran, vous dites très clairement que beaucoup de personnes n'osent pas finalement se prononcer. Pourquoi ?
Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a une sorte de... je pense que les fidèles musulmans, en tout cas, ont une sorte de... Ils se sentent moins légitimes, voilà. Ils se sentent moins légitimes. Ils supposent, en tout cas, ils pensent qu'ils doivent mieux travailler leurs réflexions, qu'ils doivent plus réfléchir sur les textes, qu'ils doivent aussi faire valider leurs différentes interprétations du texte religieux avant de le divulguer. Le Coran étant considéré comme la parole de Dieu, la parole intouchable. Ce qui permet en quelque sorte d'expliquer la faible production, en tout cas la faible proposition qu'on peut lire aujourd'hui sur les réseaux par rapport aux chrétiens qui vont en tout cas être beaucoup plus à l'aise à interpréter, à porter en tout cas un regard critique sur leur religion.
Je vous remercie Sinatou Saka. Je rappelle que vous êtes la spécialiste sur RFI des réseaux sociaux. Merci.
Merci Geneviève.
Avec nous en ligne, l'imam Abdelali Mamoun, qui anime sur Beur FM plusieurs émissions, dont pendant la période du Ramadan, l'émission Allô l'imam, de 19 à 21h, tous les jours, et puis qui a publié également aux éditions du CERF il y a 3 ans, en 2017, l'islam contre le radicalisme, manuel de contre-offensive. Bonjour Abdelali Mamoun.
Bonjour.
Pendant cette période du Ramadan, vous êtes effectivement extrêmement sollicité puisqu'il y a donc cette émission quotidienne et puis aussi vous répondez au téléphone. Ça, c'est d'ailleurs votre travail quotidien. Mais là, pendant la période du Ramadan, vous pouvez avoir plusieurs centaines d'appels. C'est bien cela ?
Alors, je laisse le numéro aux auditeurs et auditrices de Beur FM, la possibilité de me joindre hors antenne, en privé, et de m'interpeller pour répondre à des questions qui relèvent de la possibilité de rendre compatible leur vie spirituelle avec leur vie citoyenne. Et donc ce travail, effectivement, il est plutôt pas très très chargé en dehors du Ramadan. Je suis en moyenne à environ une trentaine d'appels, mais pendant le Ramadan, ce chiffre-là se multiplie par 10. Donc c'est le téléphone qui sonne là pratiquement tout le temps sans arrêt. Entre 300 et 500 appels par jour, je réponds moins de, à peu près entre 150 et 200 appels par jour.
Alors, ce ramadan 2020 est un ramadan très particulier, c'est un ramadan confiné. Comment le voyez-vous et vous, qu'est-ce que vous allez appliquer, j'allais presque dire comme méthode, pour être vraiment en lien avec les musulmans, avec votre communauté?
Alors, en effet, ce ramadan-là, on est confiné, mais il n'est certainement pas confisqué. Puisque, comme vous le savez, le jeûne est une pratique individuelle qui consiste à simplement à ne pas manger, à ne pas boire et à ne pas consommer de relations intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil, donc toute la journée. Et donc cela ne nécessite pas d'être regroupé ou de sortir quelque part ou d'aller à la mosquée, à part le soir, bien sûr, ces soirées nocturnes que nous avions l'habitude de faire toutes les soirées du ramadan par une animation spirituelle de deux ou des imams dans les mosquées. Eh bien, bien entendu, elle ne sera pas possible cette année. Mais il n'empêche que si l'on suit les traditions à la lettre, on sait que le prophète, notre prophète de l'islam, vivait ses prières chez lui, il ne les faisait pas à la mosquée. Et après sa mort, parce que les gens n'ont pas les connaissances de la religion et qu'ils ont besoin d'un guide pour savoir, ou plutôt de vivre cette spiritualité grâce aux connaissances de l'imam ou des imams, qu'ils se sont sentis obligés de le faire ensemble dans la mosquée. Mais en principe, à l'origine, elle se faisait individuellement dans les demeures. Donc là, on revient à la tradition d'origine de refaire cette pratique qu'on appelle les prières nocturnes, tarawih en arabe, eh bien, à la maison, confinée à la maison.
Alors, le vendredi, le prêche sera filmé, c'est bien cela, et ensuite, il sera diffusé sur les réseaux sociaux. Alors là, on peut parler d'un ramadan en ligne.
Oui, effectivement, on peut parler de l'utilisation de tous ces réseaux sociaux qui sont très utiles pour tous, pour toutes les religions, et permettent de garder un lien des fidèles avec leurs co-religionnaires, avec leurs frères en religion, mais aussi avec leurs cadres religieux, leurs ministres du culte respectifs, qui assurent, pour nous les musulmans en tout cas, tous les vendredis, un sermon, une exhortation, une prière, une messe, comme on peut dire, religieuse, dans lequel nous gardons cette tradition de transmettre à nos co-religionnaires, grâce à ces moyens technologiques que sont le net et les médias interposés, eh bien, de pouvoir répondre. Donc nous, pour cela, nous avons créé carrément une chaîne YouTube qui s'appelle Prêche de France, et c'est dans cette chaîne-là que nous diffusons plusieurs dizaines de sermons par semaine d'imams qui interviennent de partout en France. Nous avons l'imam de Nice, de Strasbourg, de Paris, de Lille, de Bordeaux, l'imam Tariq Oubrou, etc. Mohamed Bajrafi, l'imam d'Ivry, Tariq Abou Nour, etc. Bon, j'en passe, c'est les meilleurs, qui assurent des prêches en français, bien sûr, de la même manière qu'ils le faisaient quand ils étaient en face. Donc il y en a même qui le font dans la mosquée, mais devant personne, ou devant une personne qui filme seulement, avec un téléphone portable posé sur un support. Et donc il est tout seul, donc là il n'enfreint pas la règle du respect de la distanciation sociale. Cet enregistrement est diffusé sur le net.
Abdelali Mamoun, vous êtes un imam très au fait des questions de société. On sait très bien que le confinement dans des appartements petits, avec des familles nombreuses, c'est difficile. Est-ce que vous avez précisément des retours sur des tensions familiales, sur voire des violences familiales ?
Tout à fait, nous en avons effectivement, et c'est parfois très compliqué de gérer ce genre de situation. Mais moi, dans l'urgence des choses, si une femme fait l'objet de violences conjugales, quel que soit le motif, que ça soit lié au fait qu'il y a un confinement intensifié qui crée des tensions dans le couple, ou avant même la crise sanitaire, l'urgence immédiate, c'est de dire à la mère, à cette femme-là qui a été violentée, d'aller porter plainte, d'aller faire un certificat médical et de demander l'éloignement de ce personnage qui est une menace pour sa vie. Puisqu'aujourd'hui, on sait que les violences conjugales tuent. Donc il faut dire les choses et les mots tels qu'elles sont. Les violences conjugales aujourd'hui tuent. Et il faut impérativement stopper, utiliser les moyens les plus radicaux pour empêcher que des hommes abusent de leur force contre leur conjointe, et donc que les forces de l'ordre interviennent immédiatement par des comparutions immédiates au tribunal pour que ces personnes soient mises hors d'état de nuire à leur épouse.
Qui a tapé, tapera.
Exactement, et tapera plus fort. C'est ça qui est malheureux. Donc il faut vraiment que ces femmes ne se laissent pas faire, et qu'elles soient musulmanes ou non. Moi, je parle à tout le monde, là.
Quelques mots, mais vraiment très courts, sur ce Ramadan 2020. Qu'est-ce que vous souhaitez aux musulmans ?
Très vite, cette maladie soit éradiquée enfin, et qu'on se débarrasse enfin de cette maladie, pour que tout le monde puisse enfin retrouver son épanouissement, que l'on puisse sauver beaucoup, beaucoup de vies, que cette maladie est en train de ravager notre population, notamment surtout les personnes âgées. J'espère que ça va très vite s'arrêter, pour que l'on puisse enfin, non pas dire de loin à nos parents, à nos proches, bisous, mais que l'on aille vraiment leur faire un bisou, et qu'on aille embrasser et entrelacer nos proches et leur faire des câlins, et enfin pouvoir revoir nos êtres qui nous sont très chers, en France et même à l'étranger.
L'imam Abdelali Mamoun, imam en banlieue parisienne. Visage de l'islam de France, Kaïna Bahloul, figure de l'islam libéral, première femme imam en France et qui a ouvert avec le philosophe et imam Fakhr Korshan la mosquée Fatima, une mosquée où hommes et femmes prient ensemble, où la conduite de la prière est alternativement assurée par un imam ou une imam. Cette mosquée est ouverte aux non-musulmans et les femmes voilées ou non voilées peuvent y venir. Bonjour Kaïna Bahloul.
Bonjour.
Alors, cette expérience, j'allais dire, de la mosquée Fatima, bon, a été en tous les cas de courte durée, mais elle va reprendre après le confinement, puisque c'est au mois de février que vous avez loué une salle, hein, où une vingtaine de personnes sont venues, 10 femmes et 12 hommes. Mais très rapidement, il a fallu se conformer aux mesures pour arrêter le Covid-19.
Tout à fait. Donc, nous avons commencé officiellement notre activité et nos prières collectives dans le cadre donc, de ce projet de mosquée libérale, la mosquée Fatima, au mois de février. Et après quelques prières collectives, il y a eu effectivement cette mesure de confinement qu'on se doit tous de respecter, chose qu'on a faite. Et donc on a interrompu, pour l'instant, on a interrompu nos activités collectives et on compte reprendre après la levée du confinement.
Comment allez-vous vivre précisément à la mosquée Fatima ce Ramadan 2020, ce Ramadan confiné ?
Eh bien, ce sera un Ramadan tout à fait exceptionnel, qui ne sera pas du tout un Ramadan comme on le connaît d'habitude. Alors nous, on tient à garder un lien avec nos fidèles. Donc nous essayons d'écrire des articles, de publier des articles, d'offrir un contenu malgré tout, même si on ne peut pas se rassembler physiquement, mais offrir un contenu spirituel aux personnes qui nous suivent. Donc par exemple, j'ai publié un article qui s'appelle « Du confinement à la retraite spirituelle » sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux. Et pendant le Ramadan, alors... nous avons l'idée de faire des petites capsules, des petites vidéos pour continuer à donner des conseils, à garder le lien, un lien spirituel avec les fidèles.
Pour vous, Kaïna Bahloul, si j'ai bien compris, ce Ramadan 2020 confiné, finalement, va inciter les croyants, les pratiquants, à revenir, j'allais dire, aux origines du Ramadan, c'est-à-dire vraiment le recueillement de façon seule.
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le Ramadan, on a tendance à associer le Ramadan plutôt à une période festive, ce qui n'était pas du tout le cas en réalité au départ. Le Ramadan était plutôt associé à l'idée d'ascèse. Le Ramadan, en fait, c'est le mois durant lequel le prophète de l'islam a eu la révélation du Coran. Et s'il a pu atteindre ce degré spirituel, de réalisation spirituelle, qui a permis qu'il puisse avoir cette inspiration, cette révélation, c'est parce qu'à ce moment-là, durant une longue période, il pratiquait une ascèse, donc, où il se retirait dans une grotte qu'on appelle la grotte de Hira. Et donc il était vraiment en retrait de la société, en retrait de la vie mondaine. Il s'imposait une vie spirituelle et une ascèse spirituelle très stricte, accompagnée d'un jeûne. Donc le jeûne n'était pas le seul objectif, ni la seule discipline spirituelle pour éduquer son âme et pour évoluer dans sa spiritualité. Et je trouve que cette période de confinement, justement, nous invite à revenir à ce premier sens du ramadan et du jeûne dans l'islam, et à re-questionner finalement le sens premier et ce à quoi nous invitait finalement cette pratique qui nous vient du prophète de l'islam.
Alors Kaïna Bahloul, je n'ai pas précisé que vous êtes soufie. Que dit votre maître soufi Ibn Arabi, donc maître du XIIe siècle, que disait-il du ramadan et du jeûne?
Ah, alors il dit beaucoup. Ibn Arabi est un très très grand mystique de la spiritualité musulmane. Il est le grand théoricien du soufisme. Il a beaucoup écrit sur le ramadan, et surtout il en donne une lecture très très mystique, très symbolique. Mais surtout, il a écrit aussi sur la retraite spirituelle, qui pour lui doit plutôt nous pousser à une vacuité, à vivre une véritable vacuité intérieure qui laisserait plus de place à la transcendance, à l'absolu, qui viendrait nous transformer de l'intérieur pour évoluer et devenir, encore une fois, le meilleur qu'on peut être en tant qu'être humain.
C'est très bouddhiste cela, non? La vacuité, non?
Mais vous savez, toutes les traditions spirituelles, toutes les grandes traditions spirituelles, en réalité, sont très très proches.
Elles se rejoignent
parce
souvent.
Que elles se rejoignent tout à fait. La sagesse est humaine, elle est universelle. Et on peut emprunter des chemins différents, des voies différentes. Mais au final, j'ai envie de dire, la vérité reste la même.
Oui, quand vous évoquez effectivement ce retrait du prophète, ce recueillement, ça fait beaucoup penser, par exemple, aux moines du désert, au IVe siècle, par exemple, dans le christianisme.
Exactement, exactement. Mais tout à fait, je crois que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que l'islam n'est pas né de rien. Il ne faut surtout pas croire que l'islam est une religion qui est complètement coupée du contexte dans lequel elle est née, ou alors de l'histoire humaine, tout simplement. Il y a toujours eu des influences entre différentes traditions spirituelles et religieuses, et l'islam en fait partie. L'islam a été fortement influencé par les grands mystiques chrétiens notamment, et ceci se traduit effectivement dans toutes ces pratiques spirituelles de la cesse, du jeûne, et ne serait-ce que pour les soufis, par exemple, dans la symbolique qu'ils donnent à leurs vêtements. Les soufis, le mot soufi vient du mot arabe sauf, qui veut dire laine.
Oui.
Laine, tout à fait, et en fait il fait référence à ce vêtement en bure de laine que portaient les soufis en signe de pauvreté. Et c'était exactement le même vêtement que portaient les ascètes chrétiens.
Je vous remercie, Kaïna Bahloul. Je rappelle donc que vous êtes imam de la mosquée Fatima avec un autre imam, Fakher Korshan. Je vous remercie.
Merci.
Bon
Merci
ramadan.
Merci, au revoir.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Le mois du Ramadan célèbre chez les musulmans la révélation du Coran au prophète Mahomet. le Coran dont l'islamologue syrien Mouhammad Charour, décédé en décembre dernier à Abu Dhabi à l'âge de 81 ans, propose dans ce qui restera l'un de ses derniers livres une lecture radicalement renouvelée. Le titre pour un islam humaniste et le sous-titre une lecture contemporaine du Coran est une somme de près de 450 pages publiée aux éditions du Cerf qui comprend deux parties, une longue introduction qui occupe un tiers de l'ouvrage, signée par le traducteur du livre Makram Abbès, et la deuxième partie qui expose la pensée de Mouhammad Charour qui entend proposer une lecture libératrice du Coran. Avec nous en ligne de Lyon, Makram Abbès, bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes professeur des universités à l'École normale supérieure de Lyon et que votre domaine de recherche et de prédilection est la philosophie politique arabe. Alors, Mouhammad Charour, cet ingénieur syrien qui pendant 30 ans va se tourner vers l'étude du Coran seul, en délaissant tout ce qui a été produit après par les oulémas et les juristes, qui était cet homme que l'on appelle le Luther de l'islam, Makram Abbès?
Effectivement, comme vous l'avez rappelé, donc Mohamed Charour est ingénieur civil de formation et de métier aussi. Il a enseigné cette discipline à l'université de Damas pendant plusieurs années, avant de se consacrer à l'étude du texte coranique et bien sûr de la pensée religieuse de l'islam. Alors, il y a une petite anecdote qu'il aimait beaucoup raconter lors des conférences qu'il faisait un peu partout dans le monde. Cette anecdote, en fait, elle remonte à un événement historique majeur dans le Proche-Orient, à savoir la défaite des armées arabes contre l'armée israélienne, donc lors de la guerre des Six Jours. Et cet événement politique et militaire a été déterminant pour, bien sûr, la conscience de plusieurs Syriens, de plusieurs Égyptiens, et Charour ne fait pas exception, puisque en allant à la mosquée après cette défaite, eh bien, il a entendu dire par l'imam que la défaite était due au fait que les musulmans ou les Syriens n'étaient pas trop attachés à leur religion. Donc, il sort de la mosquée et il discute avec un ami athée. Et là, il lui dit que la principale cause de la défaite, c'était l'attachement excessif à l'islam. Donc voilà, vous avez deux interprétations diamétralement opposées, en fait, du même de la cause, en fait, de cet échec militaire et de cet échec politique. Et donc, c'est ce qui a déterminé Charour à aller interroger les textes religieux et principalement donc le texte coranique afin de puiser en quelque sorte une réponse à ce que ce monde, en fait le monde arabe, le monde musulman, l'islam d'une manière générale traversé comme crise sur tous les plans, crise politique, crise militaire, crise scientifique, technologique, etc., etc.
Et il rappelle d'ailleurs que ce retard considérable accumulé dans le monde musulman, même les armées de Napoléon en Égypte, lors de la campagne, en avaient fait le constat.
Absolument. En fait, l'idée de crise ou bien de retard est vraiment fondamentale dans la pensée arabe contemporaine, c'est-à-dire que vous avez toujours chez la plupart des penseurs et des intellectuels donc une approche qui est fondée un peu sur le rapport à la tradition et la question de la modernisation, comment être authentique et comment aussi trouver le chemin du progrès historique, moral, politique, social, etc. Et donc cette approche de l'islam par le biais d'un constat qui est tout à fait naturel, qui est bien sûr acerbe, qui est regrettable, mais en fait ce sont les réalités, c'est-à-dire toutes les sociétés passent par des moments de crise patiente et aussi de retard ou bien d'enfermement identitaire, etc., etc. Et donc c'était un peu le cas de ces sociétés et les intellectuels justement comme Charour étaient conscients de la nécessité de dépasser ce moment de crise à travers donc en quelque sorte une entreprise d'autocritique qui est fondamentale, et bien sûr la porte de cette autocritique n'était autre que celle de la religion.
Alors, Makram Abbès, il y a des réformateurs bien connus, hein, vous les citez d'ailleurs dans le livre, Marmouta, Abdelmajid Darcharfi, Fazlur Rahman, Sourouche, etc. Bon, qu'est-ce qui distingue Mouhammad Charour de ces réformateurs?
Alors, d'abord, les universitaires, en fait, que vous avez mentionnés, sont des gens qui sont issus des disciplines classiques des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire certains sont historiens, d'autres philosophes, sociologues, politistes, etc. Ce n'est pas le cas de Chahrour, en fait, initialement. Donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est que Chahrour va établir, en fait, un rapport quasiment personnel parce que, avec le texte coranique, parce que il va tout faire en autodidacte. Et donc, il va apprendre, en fait, sur le tas, la manière de l'approcher, étudier la littérature qui s'est construite, en fait, autour de ce texte. Et il va, dès le départ, prendre une position méthodologique et épistémologique qui va donner, en fait, ses fruits, justement, au bout de quelques dizaines d'années d'études de ce texte. Cette position consiste, en fait, à faire table rase de la plupart des savoirs qui se sont greffés sur ce texte. Non seulement pas parce que Chahrour, en fait, méprise ses savoirs, mais c'est pas tout simplement parce que pendant plusieurs siècles, eh bien, ces dispositifs immenses, formés, en fait, de disciplines comme le droit, comme l'exégèse, comme le hadith, c'est-à-dire les dits du prophète, donc des travaux aussi d'ordre spirituel sur le soufisme, etc. Tout cela, la théologie bien entendu, tout cela, si vous voulez, a été élaboré pendant plusieurs siècles au sein de nombreuses écoles, doctrines, etc. Mais ça a fini par constituer un écran empêchant d'accéder directement au texte. Un peu à la Descartes, si vous voulez, qui fait table rase un peu de la tradition scolastique afin de fonder quelque chose de nouveau, de moderne, justement. Donc, voilà, Chahrour assume totalement cette démarche et donc la fait sienne pour approcher le texte.
C'est ça, pour Chahrour, en fait, le commentaire du commentaire du commentaire, eh bien, finit par étouffer le message premier, originel.
Absolument, absolument. Nous avons, en fait, si vous voulez, cette démarche dans plusieurs comme ça mouvements de pensée ou à plusieurs moments de l'histoire de la pensée humaine. Vous avez par exemple des philosophes qui vont prendre en charge le commentaire par exemple d'un texte originel cela va le conduire à laisser de côté justement les commentaires des commentaires, donc toute la tradition exégétique. Pourquoi? Parce que cette tradition, même si elle est intéressante, même si elle donne des clés d'interprétation d'un auteur, eh bien parfois elle obscurcit, en fait, elle contribue à obscurcir la pensée originelle. Par exemple, Averroès, qui est l'un des grands noms de la philosophie en islam, justement a adopté cette démarche pour revenir au XIIe siècle, au texte d'Aristote, afin de découvrir justement le véritable sens. Donc on cherchait un vrai Aristote, et cela, bien sûr, devait se faire en mettant entre parenthèses la tradition exégétique principalement néo-platonicienne de cet auteur. Vous voyez, donc cette démarche-là, parfois elle est salutaire parce qu'elle permet de renouer avec le sens, avec les enseignements, avec les postulats, avec les problématiques qu'on trouve dans un texte et qui parfois ont été obscurcis par de nombreuses traditions de commentaires à travers les siècles.
Donc on va voir effectivement l'apport que ça a pu donner de prendre le Coran, rien que le Coran. Alors effectivement, ça fait bien penser aux protestants. Et je rappelle donc que Chahrour est appelé le Luther de l'islam, hein, c'est-à-dire les textes, rien que les textes.
Absolument. Alors les textes, et surtout, il y a un autre aspect aussi qui justifie cette comparaison, c'est que Chahrour est en quelque sorte opposé à l'institution religieuse, c'est-à-dire tous les tenants des institutions religieuses traditionnelles comme Al-Azhar, par exemple, au Caire, la fameuse université d'Al-Azhar. Il y a d'ailleurs plusieurs personnalités de cette université qui se sont opposées à Chahrour de son vivant, le taxant d'hérétique, etc., d'apostat. Il y a aussi les clercs autoproclamés de l'islam qui pullulent un peu sur la toile, dans les réseaux sociaux. Il y a aussi, bien sûr, l'expression idéologique de l'islam actuellement en vogue, par exemple dans le cadre de l'islamisme ou bien du salafisme. Eh bien, toutes ces expressions de la pensée religieuse de l'islam, qui sont bien sûr légitimes parce que ce sont des gens qui s'expriment, qui écrivent, qui produisent, etc., eh bien, n'ont pas donné satisfaction, pleine satisfaction, en fait, à Chahrour, parce que, eh bien, il perpétue le même rapport au texte, c'est-à-dire un rapport à la fois ultra conservateur, un rapport qui est fondé sur l'étude, non pas du texte lui-même, mais un ressassement de toute la littérature qui s'est constituée autour de lui. Et donc, cette littérature-là, justement, et c'est ce qui justifie un peu la comparaison avec le protestantisme, cette littérature-là, elle est fondamentalement légaliste. Elle traduit en fait une vision un peu hégémonique de la croyance musulmane par rapport aux autres croyances. Par exemple, elle a aussi, elle pose des problèmes, ne serait-ce que théologiques. Par exemple, les premiers juristes de l'islam ont adopté une doctrine qui s'appelle l'abrogation, c'est-à-dire pour décréter que tel verset peut abroger d'autres versets. Ils étaient aussi dans une démarche qui cherchait à établir la loi la plus sévère en ce qui concerne les cultes, en ce qui concerne, disons, la conduite morale, sociale, politique, etc. Je vous donne un petit exemple à propos du jeûne. Par exemple, vous avez un texte coranique, un verset coranique, c'est le 184 de la sourate 2, qui aborde donc le jeûne en tant que prescription, qui le décrit en tant que prescription, s'imposant bien sûr aux musulmans, mais aussi qui s'est imposé auparavant à d'autres peuple monothéiste. Et en plus, donc, après avoir décrit cela comme une prescription, donc tout le jeûne du mois du Ramadan, eh bien, le texte coranique rajoute qu'il est possible de ne pas jeûner, alors qu'on peut le faire, alors qu'on est capable en fait de le faire, mais en contrepartie, il faudrait donc dépenser de son argent, faire de bonnes œuvres, de bonnes actions. Et donc, il y a cette option qui est donnée en fait aux croyants pour pratiquer autre chose à la place du jeûne.
Alors, est-ce que cela veut dire, Makram Abbès, que cette lecture-là du Coran, lecture originelle, eh bien, finalement, peut développer une autonomie du sujet qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui ?
Absolument. Absolument, tout à fait. En fait, c'est une lecture, justement, qui est moins centrée, alors qu'elle part de la lettre du texte, c'est-à-dire elle s'appuie sur la lettre du texte. Seulement, cette lettre-là n'a pas été respectée par certains juristes de l'époque médiévale parce que ils cherchaient en fait à établir la loi la plus sévère en matière de culte, en matière de rite. Et donc, Shahrour justement essaie de redonner au texte la plénitude de tout son sens et cela permet de montrer que le texte lui-même en fait offre des options aux gens. Il est plus souple que le discours des juristes qui parlent en son nom. Voilà.
Dernière question, Makram Abbès. Est-ce que précisément cette autonomie du sujet à laquelle Shahrour invite, est-ce que c'est cela qui fait dire, qu'en quelque sorte, qu'il s'agit d'un islam humaniste ?
Absolument, parce que c'est une réflexion religieuse, certes, mais qui est fondée sur l'homme. C'est-à-dire qu'elle se focalise en fait sur l'homme au sein de la société, sur l'homme en tant qu'être politique, en tant que citoyen, et d'abord, bien sûr, en tant que sujet. Et dans cette dimension personnelle, par exemple, il y a certains contenus comme la liberté de conscience que Shahrour fonde théologiquement en revenant à l'idée qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion, en revenant à l'idée que l'apostasie, par exemple, qui est encore un crime dans certains pays musulmans, qui est même soutenu par les institutions religieuses, eh bien l'apostasie n'a pas à être décrétée justement par les clercs ou par les ulémas ou par les juristes, ou ni non plus par l'État, bien entendu. L'hérésie, en fait, les accusations d'hérésie, etc., tout cela, si vous voulez, tout le contenu en fait de la liberté de conscience est repris totalement par Shahrour pour être fondé justement théologiquement. Et cela permet aussi de libérer la sphère de la citoyenneté en montrant que, si vous voulez, l'islam n'est pas du tout incompatible tel que bien sûr il est défini par Shahrour, n'est pas incompatible avec le fait de vivre dans une société qui n'est pas musulmane, puisque l'islam en fait peut être rejoint non pas par le biais des dogmes ou bien par le biais des cultes, des rites, etc., mais plutôt par l'adhésion aux valeurs humaines. Et donc, du moment qu'on affirme en fait son allégeance aux valeurs humaines universelles, eh bien, on est en quelque sorte musulman, et on peut s'intégrer dans toutes les sociétés. Et donc, cette idée de l'allégeance à l'État qui ne nie pas l'allégeance à l'islam, elle est vraiment fondamentale parce que elle est au cœur de certains débats, aussi bien pour l'islam en France que l'islam en Europe ou bien dans d'autres régions du monde.
Je vous remercie, Makram Abbès.
Merci beaucoup à vous.
Je rappelle que vous êtes le traducteur et aussi le contributeur du livre « Pour un islam humaniste, une lecture contemporaine du Coran » et c'est publié aux éditions du Cerf dans la collection « Islam, nouvelle approche ». Merci.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de Religion du Monde, présentée par Geneviève Delru et réalisée par Steven Esli et Sophie Janin. À dimanche prochain, bonne semaine à tous.